RFI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación.
Bienvenue, si vous nous rejoignez. Son nom seul suffit à susciter des crispations. Le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes sera-t-il enterré ou entériné par le médiateur bientôt nommé par le président Emmanuel Macron? Il aura 6 mois pour décider. Le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, s'est quant à lui dit, je le cite, intimement convaincu qu'il y a de possibles alternatives à Notre-Dame-des-Landes. Ce projet d'aéroport dans l'ouest de la France ouvre néanmoins une question plus large, celle de la compensation écologique imposée dans le cadre de tout grand chantier et contestée par de nombreux scientifiques. Peut-on compenser des atteintes faites à la nature, détruire pour mieux protéger ailleurs? Comment éviter que cette compensation ne soit qu'un outil pour faire accepter des projets d'aménagement controversés? Elle est en tout cas difficile à mettre en œuvre, c'est ce que conclut le sénateur écologiste Ronan Dantec, rapporteur d'une commission sur les mesures de compensation engagées dans plusieurs grands projets d'infrastructures, dont Notre-Dame-des-Landes. J'ai le plaisir de le recevoir. Et avec lui, l'écologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, directeur du Centre d'écologie et des sciences de la conservation, Romain Julliard.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et si nous revenions un instant sur l'histoire de ce projet maudit, Ronan Dantec, Notre-Dame-des-Landes, projet dont l'idée a émergé à la fin des années 60, à une époque où la conservation de la biodiversité était encore loin d'être une priorité.
Oui, je crois que effectivement Notre-Dame-des-Landes raconte 50 ans de rapport à la nature et à la question de cette compensation, puisque la compensation, ça existe dans la loi depuis 1976, depuis la première grande loi de protection de la nature, mais on s'en est vraiment soucié qu'à partir du moment où, au niveau européen, les grandes directives de protection de l'environnement sont arrivées, et puis il y a la nouvelle loi biodiversité. Mais effectivement, Notre-Dame-des-Landes, c'est pas le même projet si on le regarde dans les années 60, où finalement, le site est extraordinairement bien adapté puisque ce sont des landes, des zones humides, donc ça produit très peu au niveau agricole. Donc s'il y a une infrastructure à mettre quelque part, c'est bien l'endroit où ça produit peu au niveau agricole, donc Notre-Dame-des-Landes. Ça devient compliqué avec les lois européennes, on commence à se dire il va falloir compenser. Donc le projet est conçu effectivement avec, on va en discuter, un volet compensation discutable mais qui existe. Et puis il y a la nouvelle loi biodiversité qui dit obligation de résultat sur la compensation. Et là, ça va devenir très très compliqué à Notre-Dame-des-Landes.
On parle d'une surface totale de 29 km², aéroports et dessertes routières compris.
Alors, la ZAD, c'est-à-dire la zone d'aménagement de Notre-Dame-des-Landes, c'est à peu près 1500 hectares, dont à peu près 500 hectares d'ailleurs dévolus à la compensation environnementale. Mais pour vous donner une idée du problème, c'est que il faudrait aujourd'hui, pour compenser les dégâts faits sur une zone humide, Notre-Dame-des-Landes, c'est quasiment que de la zone humide avec des espèces rares, notamment à cause de la présence de prairies oligotrophes, on y reviendra, il va falloir plutôt 3000 hectares. C'est-à-dire que même les 500 hectares qui sont prévus dans la ZAD pour la compensation ne permettront qu'à peu près 10% des mesures compensatoires. Donc c'est nettement insuffisant. Et où trouver les 2500 autres hectares? C'est un souci sur lequel les aménageurs n'ont pas aujourd'hui la réponse.
Romain Julliard, Ronan Dantec nous parle de prairies oligotrophes. Qu'est-ce que c'est?
Donc oligotrophes, c'est construit sur oligo qui a quelques éléments. Donc ce sont des prairies qui sont pauvres par rapport à des prairies très productives, mais qui sont très riches sur le plan de la biodiversité parce que elles sont composées d'espèces très spécialistes de ces milieux. Et ce sont des milieux qui sont de plus en plus rares aussi, puisque les usages sont essentiellement pastoraux sur ce type de prairies, et donc ni l'agriculture intensive ni la forêt qui sont compatibles. Et donc ce sont des milieux très rares et qu'on a beaucoup de peine aussi à redévelopper parce qu'ils résultent d'une très très longue histoire d'interaction entre les pratiques humaines et la nature.
C'est un peu le paradoxe de Notre-Dame-des-Landes, c'est que finalement on a mis sous cloche un territoire qui n'a pas évolué comme les autres territoires, avec une agriculture plus intensive, avec des engrais, des labours profonds. Et on a finalement créé peu à peu un milieu d'une richesse extraordinaire. Et finalement, les aménageurs qui ont prévu ce territoire il y a 50 ans parce qu'il était pauvre en termes de capacité économique de production, est devenu effectivement un joyau de biodiversité. Et ça va probablement amener les aménageurs à chercher, à mon avis, un autre site ou plutôt à réaménager dans l'Atlantique.
On y reviendra. Quelles espèces protégées pourraient être impactées par ce projet d'aéroport, Romain Julliard ?
Alors, il y en a une très, très longue liste, hein, parce que tous les oiseaux, par exemple, sont des espèces protégées, certains nombres de mammifères, quelques insectes. Et donc, de fait, il y a une longue liste d'espèces protégées. Alors, il y en a de temps en temps une ou deux qui ressortent parce qu'elles ont peut-être été médiatisées. On a parlé du campagnol amphibie. Alors, c'est assez paradoxal parce que campagnol, c'est finalement un rongeur, un petit rat, dont certaines congénères sont plutôt des ravageurs de culture. Et donc, on voit là tout le paradoxe de se focaliser sur certaines espèces et de les mettre sur la place publique et de mettre en relation un projet qui est plutôt un projet social, socio-économique, socio-écosystémique, qui est un aéroport avec une espèce et d'opposer ces deux aspects.
Depuis 1976 en France, la séquence éviter, réduire, compenser est obligatoire. Ronan Dantec, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, on n'a pas vraiment su, on n'a peut-être même pas vraiment essayé d'éviter.
Ah non, pas du tout. Et là, peut-être un mot quand même sur cette commission d'enquête qui s'est focalisée sur 4 projets de nature différente. Il y a des stades d'avancée différents. Donc, il y a une autoroute terminée. Donc là, on est allé voir comment se développaient les mesures compensatoires. Une ligne TGV entre Tours et Bordeaux en cours de construction. Donc là, on est allé voir les travaux, ce qui se passait sur les travaux.
Dans l'ouest de la France également.
Qui est effectivement aussi un problème. La conduite des travaux peut avoir un impact environnemental négatif important. Et puis, un projet encore en cours de théorisation sur les mesures compensatoires, qui est Notre-Dame-des-Landes. Et puis, on est allé voir ce qu'on appelle les actifs de compensation avec l'accro. En fait, cette commission d'enquête voulait avoir une idée un peu générale des enjeux de compensation en France, mais aller aussi voir les endroits où il y a débat. Néanmoins, pour que les conclusions puissent en être adoptées, la commission d'enquête, où les écologistes évidemment étaient minoritaires, même si c'est à notre initiative, a décidé de ne pas donner d'avis sur la qualité des mesures compensatoires de l'ensemble de ces projets. Donc, quand je m'exprime sur Notre-Dame-des-Landes, c'est à titre personnel. Par contre, on a eu un consensus dans la commission sur beaucoup de propositions pour améliorer cette séquence et notamment revenir sur la séquence évitée, qui est la grande absente finalement de l'approche. Globalement, l'aménageur en France, il décide de faire un projet et après, il regarde les conséquences environnementales et il fait de la compensation, plus ou moins, mais il cherche à faire surtout de la compensation, mais après avoir décidé son projet. Dans aucun cas, il se dit, mais vu les coûts environnementaux, est-ce que je dois ou pas faire mon projet ? Aucune ligne TGV ne se met en balance avec les enjeux environnementaux. Donc, ce que propose déjà la commission d'enquête, donc là, c'est des propositions communes, c'est par exemple d'intégrer au niveau de l'étude d'impact, donc avant le projet, par exemple, l'ensemble des conséquences pour l'agriculture, en termes économiques, en termes de perte de foncier, à la fois ce qui est mangé par l'infrastructure elle-même, mais aussi ce qui est finalement modifié dans sa pratique par la compensation. Et donc d'avoir un volet économique beaucoup plus important sur l'agriculture. Ça, c'est une proposition tout à fait consensuelle. Et notre idée, c'est qu'effectivement, il faut aujourd'hui que les projets, au stade de l'étude d'impact, au stade de la conception, intègrent plus l'ensemble des enjeux environnementaux pour peut-être les éviter, c'est-à-dire ne pas les faire, ou en tout cas les réduire. Et ce qui est très très notable à Notre-Dame-des-Landes, et là, c'est les auditions sous serment de la commission d'enquête, c'est qu'à aucun moment les aménageurs ne se posent même la question de la réduction de l'impact. C'est-à-dire, le plus emblématique, c'est qu'ils prévoient des parkings extrêmement étendus en recréant un faux bocage qui lui ne va pas permettre de garder la biodiversité initiale
au lieu de limiter la surface des parkings.
L'idée, la grande mesure environnementale de Notre-Dame-des-Landes, c'est de faire joli dans le paysage, en aucun cas de répondre aux enjeux de biodiversité. La particularité sur Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'à aucun moment l'État ou l'aménageur Vinci n'ont cherché le consensus avec les associations de protection de l'environnement.
Pourquoi ? Qui n'ont pas eu le sentiment d'être écoutés.
Mais oui, mais évidemment, je me suis demandé pourquoi. C'est-à-dire parce que si on augmente les mesures compensatoires à Notre-Dame, on arrive sur des milliers et des milliers d'hectares nécessaires pour la compensation. Et de toute évidence, ils ne les ont pas, puisque le monde agricole ne veut pas participer globalement à cette compensation.
Romain Julliard, comment on compense ? Comment on recrée des espaces de biodiversité ? Comment ça fonctionne ?
C'est assez divers en fonction des enjeux qui sont en place. Hein. Il y a certains habitats dont on maîtrise assez bien la renaturation, notamment les habitats humides. Transférer une mare, c'est à peu près des choses qui sont maîtrisables. C'est plus compliqué pour des milieux plus, on citait les prairies oligotrophes. Et puis, ça peut devenir presque impossible. Comment compenser et recréer une forêt de 120 ans? Eh ben, c'est pas possible. Et comment, et puis d'autres qui sont une falaise calcaire très riche en espèces, si elle est impactée, là, il n'y a pas moyen de la récompenser. Et on a du coup le même outil pour des situations qui sont vraiment très, très différentes entre une nature, une biodiversité qui dépend d'usage qu'on peut reproduire, d'usage agricole par exemple, ou de pratiques, et d'autres qui sont vraiment structurellement non compensables. Et pourtant, la loi est la même et devrait s'appliquer. Une des faiblesses aussi de toutes ces séquences, c'est qu'elle elle est finalement beaucoup plus... Enfin, la loi, et notamment la dernière version dans la loi de reconquête, c'est qu'elle est très... On avance finalement sur les connaissances scientifiques et sur ce que c'est que la biodiversité et comment on la mesure. On a cette notion d'équivalence, on est censé mesurer une perte et un gain et pouvoir mettre un signe égal entre les deux. Mais ça,
c'est difficile de figer la biodiversité pour la mesurer, en fait.
Alors, la figer, et puis parce que c'est quelque chose de dynamique et de beaucoup plus complexe que simplement une liste d'espèces protégées. Et c'est là où on est en avance, mais en retard, parce qu'on s'appuie toujours sur les fondements qui sont de la loi de 76, qui était aussi une loi de protection. C'était des grandes lois de protection d'espèces qui étaient à l'époque très menacées, qui étaient les rapaces, les cigognes, les hérons, qui étaient pratiquement en voie d'extinction partout parce qu'il y avait une très forte pression. Et donc, ça a été très efficace, ces lois de protection sur ces espèces-là. Mais on les a appliquées sur des enjeux qui sont d'aménagement et qui ne sont pas spécifiques ou particuliers à ces espèces protégées. Et du coup, on a un décalage entre les enjeux de biodiversité qui sont plutôt cette nature, ce qu'on va appeler de la campagne finalement, hein, cette nature ordinaire, mais qui constitue notre patrimoine, hein, à la fois culturel et naturel, et la manière dont on le mesure à travers ces espèces.
La zone de Notre-Dame-des-Landes comprend de nombreuses zones humides, on l'a dit. Alors, quelle compensation pour ces zones très riches en biodiversité sur le continent africain? Nous sommes en ligne avec Paul Ouédraogo, conseiller Afrique à la Convention de Ramsar. Bonjour Paul Ouédraogo.
Oui, bonjour RFI.
Peut-être un petit mot d'abord sur la Convention de Ramsar, ce traité international adopté en 71 pour préserver des zones humides qui sont considérées d'importance internationale. Quelles peuvent être ces zones, Paul Ouédraogo?
On distingue globalement trois grands types. On distingue les lacs et les marais qui sont des zones humides intérieures. On distingue aussi des types de zones humides côtières, ce sont les mangroves, les estuaires, mais aussi on en distingue des zones humides artificielles, les étangs de pisciculture, les barrages, etc. C'est vrai que la Convention, dans sa mission d'appuyer les parties contractantes à gérer leurs zones humides, a trois piliers. Et l'un des piliers consiste à identifier et à classer des zones humides d'importance internationale que l'on appelle sites Ramsar. Et actuellement, la Convention en dispose 2266.
Et sur le continent africain, combien est-ce qu'on a de sites
Ramsar? Sur le continent africain, nous avons 385 sites Ramsar. Mais ces 385 sites Ramsar couvrent plus de 40% de la superficie totale des sites Ramsar du monde entier.
Et de quel type ils sont, ces sites Ramsar, sur le continent africain? Qu'est-ce que ça peut être?
On distingue des marais, des étangs, des lacs, des rivières, des plaines d'inondation. Quand vous prenez, par exemple, la plaine du lac Tchad, les marécages, le lac Tchad lui-même. Vous prenez, par exemple, d'autres lacs sahéliens tels que le lac Dem et le lac Bam au Burkina. Vous avez aussi des mangroves que l'on retrouve. Par exemple, au Sénégal, vous avez les mangroves du côté de la Casamance, du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez des barrages qui sont des zones humides artificielles qui ont été classées à cet effet.
Et est-ce que vous avez des exemples de zones humides en Afrique pour lesquelles des mesures de compensation sont en train d'être appliquées?
Oui, actuellement, on a plusieurs exemples parce que la quasi-totalité des zones humides africaines est impactée par des exploitations non durables, notamment l'agriculture non durable, l'industrie extractive, les mines, l'urbanisation mal planifiée, l'érosion, les pollutions, etc. Nous pouvons par exemple citer le delta intérieur du fleuve Niger, donc du côté du Mali, où actuellement, avec des partenaires financiers et techniques, le gouvernement malien est en train de mener des efforts donc, pour la restauration et l'aménagement de ce delta intérieur. Le Burkina a deux lacs qui commencent effectivement à attirer des partenaires techniques et financiers bilatéraux, mais également multilatéraux. Il s'agit du lac Bam et du lac Dem. Et tous ces sites-là, qui sont très riches en biodiversité floristique et faunique, sont également sous pression. J'aime bien imaginer une gouttelette d'eau qui quitte la Guinée, toute polluée par l'industrie minière et longe le bassin du Niger. Cette gouttelette d'eau est impactée sur son chemin par les pesticides utilisés dans l'agriculture caféière et cacaoyère en Côte d'Ivoire. Puis la gouttelette d'eau atteint le delta intérieur du Niger au Mali, où elle se charge de la pollution des eaux usées de Bamako et poursuit son chemin vers la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest. Et au moment de se jeter dans la mer, cette gouttelette d'eau rencontre de grosses galettes de pollution en hydrocarbures venant justement de la mauvaise gestion des hydrocarbures du côté du Nigeria. Vous voyez qu'elle devient une poudrière. Donc depuis la naissance de la gouttelette d'eau, cette gouttelette d'eau n'a transporté que des problèmes par rapport à la santé humaine, mais aussi par rapport à la vie de la biodiversité.
Et vous parlez du delta du Niger, c'est un des exemples que vous donnez. Quelles mesures de compensation est-ce qu'on met en place dans ce delta-là ?
Actuellement, sous la houlette de l'UICN au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, il y a un travail d'abord qui consiste à développer l'inventaire de ces zones le long de des zones humides le long du bassin et puis de caractériser en fait ces zones, donc les milieux à risque, et proposer des mesures effectivement de conservation. Alors, mais en même temps, quand vous analysez, par exemple, la gestion des ressources naturelles sont légiférées, vous allez vous rendre compte que le long de ce bassin, donc les 9 pays membres du bassin du fleuve Niger, il n'y a que 2 pays seulement qui possèdent une politique nationale en matière de zones humides. Mais tous les 9 pays possèdent des politiques nationales en matière d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a des limites évidentes. Il y a bien sûr des progrès intéressants, mais également il y a des limites claires que nous devons, chacun en ce qui le concerne, trouver des solutions.
Et les limites, quelles sont-elles alors ? Quelles limites vous voyez pour la compensation écologique dans ces zones humides ?
Il n'y a pas de plan de gestion des zones humides au niveau des pays africains. Et quand vous prenez sur le plan global, à l'échelle du monde, vous voyez que l'Afrique pèse pour 35% seulement en matière d'existence de plans de gestion. Donc, il est très important de définir la gestion de ces zones humides à l'intérieur de la planification locale, mais de la planification nationale, mais aussi de la planification au niveau sous-régional. On ne peut pas comprendre que les zones humides soient les milieux qui apportent notre source d'eau douce à nous tous, et qui héberge 80% de la biodiversité, et que ces zones humides-là ne soient pas insérées, par exemple, dans les politiques et surtout dans les programmes de développement de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Nous devons pousser à une intégration de la question des zones humides pour qu'il y ait des politiques assez harmonieuses ensemble dans la sous-région, parce que l'eau n'a pas de frontières, la biodiversité des zones humides n'a pas de frontières, et pendant qu'un pays protège mieux, il ne faut pas qu'ailleurs il y ait un statut de conservation carrément différent.
Merci Paul Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes conseiller Afrique à la Convention de Ramsar.
Merci.
Renan Dantec, il faut que les différentes autorités nationales s'entendent, on l'a entendu, sur les mesures de compensation à mettre en œuvre. C'est aussi vrai au niveau local ?
Ouais, la compensation, et ça, le rapport insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, c'est un rapport lui-même adopté à l'unanimité et par consensus avec des sénateurs de droite, de gauche, des républicains, des socialistes et des écologistes. Le consensus est central. C'est-à-dire que aujourd'hui, là où il n'y a pas de consensus, il y a blocage. Je pense que l'opérateur, l'État, souvent, a comme première responsabilité de chercher ce consensus avec les autorités locales, le monde agricole, le monde naturaliste. C'est possible. On a des projets où il y a eu des consensus et où il y a des dynamiques intéressantes. Quand il y a un projet, effectivement, il y a de la perte de biodiversité. La compensation, c'est ce qu'on doit faire en dernier. On est tous, j'insiste toujours là-dessus. Mais à partir du moment où il y a des projets inévitables, parce qu'on ne va pas mettre la totalité du territoire sous cloche, à ce moment-là, il faut chercher le consensus, il faut chercher l'ambition dans la compensation. Ça veut dire s'appuyer sur le monde scientifique. On a beaucoup de propositions aussi pour mieux mutualiser les recherches et les connaissances. Il faut une trame, et c'est un peu ce que disait aussi votre intervenant, il faut une planification cohérente. Je pense que la compensation doit aller avec les trames vertes bleus qui sont aujourd'hui dans les lois de décentralisation et qu'on construise comme ça une stratégie qui n'est pas juste une stratégie de limiter la perte, mais qui soit une stratégie de restauration, de reconquête de la biodiversité. Et finalement, la compensation, en la limitant au strict nécessaire, peut aussi financer de la recherche, du retour d'expérience pour être demain dans la reconquête.
Renan Dantec, Romain Julliard, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant après Crucify Your Mind de Sixto Rodriguez.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Nous parlons de la compensation écologique dans C'est pas du vent aujourd'hui. Quel sens derrière l'obligation de compenser, de recréer de la biodiversité à proximité de grands chantiers? Est-ce utile ou bien illusoire? Alors pour vous, Romain Julliard, il existe aussi le risque d'instrumentaliser la question de la biodiversité?
On a vu, on a entendu que la compensation pouvait avoir des vertus quand on cherchait le consensus. De la même manière, ça peut avoir des effets qu'on pourrait dire d'instrumentalisation quand la biodiversité va être là pour essayer de faire tomber un projet et d'être l'ultime arme des opposants.
Brandi par les opposants.
Voilà. Alors l'exemple typique, c'était ce scarabée, le pic-prune, qui avait bloqué une autoroute. Ça remonte un petit peu, ou une orchidée qui avait fait tomber un projet d'aménagement d'une grande surface. Et c'est un petit peu des victoires pour moi à la Pyrrhus, c'est-à-dire que on a gagné une bataille, mais pour la biodiversité, d'abord, ça va pas. On n'a pas sauvé le pic-prune avec les mesures de compensation qui ont été faites avec ça, qui d'ailleurs s'est révélé bien moins menacé qu'on le pensait. Mais surtout, quelle image on porte à cette biodiversité comme quelque chose qui s'oppose finalement aux humains, à leur activité, alors que, de mon point de vue, c'est un bien commun et c'est surtout un support de notre qualité de vie, de notre bien-être. Et on le disait avec Notre-Dame-des-Landes, c'est devenu un paysage à une forte valeur valeur patrimoniale. Et ça ne se résume pas à des espèces qu'il faudrait protéger. C'est surtout un espace qui a une valeur. Et c'est bien là-dessus qu'il faudrait discuter entre les valeurs qui seraient portées par un aéroport et celles par cette campagne
remarquable. Oui, c'est tout
remarquable.
Un ensemble, en fait, dont on ne parle pas simplement une espèce à brandir pour s'opposer à un projet. Ronan Dantec, comment alors mieux compenser ?
Ben, je crois que d'abord, il faut être en amont du projet, c'est-à-dire ne pas se poser la question de la compensation après avoir pris toutes les autres décisions. Et le rapport insiste beaucoup là-dessus. Il faut qu'il y ait un débat démocratique et transparent sur la compensation. C'est pour ça qu'on a des propositions très fortes dans le rapport sur le fait de dire que l'avis de la Commission nationale de protection de la nature, le maître d'ouvrage doit y répondre dans l'enquête publique. Donc bien plus tôt qu'aujourd'hui, puisque c'est plutôt finalement le contentieux au moment des arrêtés et le tribunal administratif qui règle. Nous, on propose que ce soit plus en amont. Et pour faire tout à fait écho à ce que vous disiez, c'est que finalement, tout cela n'a de sens que si on est dans une stratégie globale et cohérente de reconquête de la biodiversité. Il faut des trames, il faut des planifications, il faut des suivis, il faut mutualiser la connaissance scientifique. Il faut intégrer, ça c'est aussi une proposition forte du rapport, la biodiversité ordinaire et pas seulement un certain nombre d'espèces patrimoniales. Je crois qu'aujourd'hui on est mûr pour dire il faut être dans la reconquête. Si on est dans la reconquête, on va aussi accepter de ne pas bloquer un projet pour deux escargots ou trois chauves-souris. Parce que on saura qu'on va tous dans le même sens de la reconquête. Aujourd'hui,
il faut une vision d'ensemble plus large.
Il y a autant d'opposition parce qu'on sait que si on détruit les deux escargots, il n'y aura rien d'autre derrière. Si on sait qu'on a des politiques ambitieuses pour multiplier les escargots, on acceptera ici et là d'en sacrifier quelques-uns. Je crois que c'est cette logique-là qui est dans la logique du rapport. Donc, ce n'est pas du tout un rapport pour justifier des compensations pour tout et n'importe quoi. C'est un rapport pour dire, à partir du moment où on crée les consensus, à partir du moment où on est dans la restauration, alors il y a des projets qui vont aussi devenir presque plus faciles à faire parce que l'ensemble des acteurs seront beaucoup plus pacifiés et convaincus d'aller dans le même sens.
Merci Ronan Dantec, sénateur écologiste. Merci également Romain Julliard, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Nous aurons certainement l'occasion d'évoquer à nouveau cet épineux projet d'aéroport dans C'est pas du vent. Et samedi prochain, quelles énergies pour les pays du Sud où l'accès à l'électricité est encore souvent très limité. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.